Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Mina Harker, 30 octobre, plus tard. Quel réconfort de voir au travail ces hommes si courageux. Une femme pourrait-elle ne pas aimer des hommes si sérieux, si sincères, si braves? Il me faut admirer aussi le pouvoir de l'argent. Que ne peut-il réaliser lorsqu'il est bien employé? Et quel mal il peut faire dans le cas opposé? Je suis si reconnaissante à Lord Godalming d'être riche, et à lui et à Monsieur Maurice, qui aussi a tant d'argent, de le dépenser avec une telle largesse. S'il ne l'avait point fait, notre petite expédition n'aurait pas pu prendre le départ. Ni si rapidement, ni si bien équipée. C'est pour dans une heure. Il n'y a pas trois heures que les rôles ont été répartis entre nous. Et voici que Lord Godalming et Jonathan ont une jolie vedette à vapeur, prête à démarrer au premier signal. Le docteur Seward et Monsieur Maurice ont une demi-douzaine de beaux chevaux, bien harnachés. Nous sommes pourvus de toutes les cartes et de tous les instruments nécessaires. Le professeur Van Helsing et moi partons cette nuit à 11h40 pour Veresti, où nous nous procurerons une voiture pour gagner le col de Borgo. Nous emportons beaucoup d'argent liquide, puisque nous devons acheter une voiture et des chevaux. Nous conduirons nous-mêmes, n'ayant personne à qui nous confier dans cette affaire. Le professeur connaît quantité de langues, et tout ira bien de ce côté. Nous sommes tous armés. J'ai même un revolver de gros calibre. Jonathan a été tranquille qu'en me voyant armé comme les autres. Hélas, il est une arme que je ne puis porter comme les autres. La cicatrice de mon front m'en empêche. Le cher docteur Van Helsing me réconforte en me disant que celle que j'ai sera bien utile s'il y a des loups. Le temps devient d'heure en heure plus froid et des averses de neige vont et viennent comme pour nous avertir. Plus tard, il m'a fallu tout mon courage pour dire adieu à mon bien-aimé. Nous ne sommes pas sûrs de jamais nous revoir. Mina, courage, le professeur te regarde fixement comme pour te mettre en garde contre toute faiblesse. L'heure n'est pas aux larmes, à moins que Dieu n'autorise enfin des larmes de joie. Journal de Jonathan Harker, 30 octobre, pendant la nuit. J'écris ceci à la lumière que laisse passer la porte de la chaudière de la vedette. Lord Godalming active la chauffe. Il connaît la manœuvre pour avoir eu pendant des années une vedette à lui sur la Tamise et une autre sur les lacs du Norfolk. Après avoir étudié mes cartes, nous avons finalement adopté la conjecture de Mina. Si c'est une voie navigable qui doit ramener clandestinement le comte à son château, la seule possible est le Serret, puis la Bistritsa à partir de son confluent. Nous avons admis que l'endroit le meilleur pour traverser le pays entre la rivière et les Carpates devait se trouver aux environs du 47e degré de latitude nord. Nous pouvons sans crainte forcer la vitesse pendant la nuit. L'eau est profonde et la distance entre les bancs est suffisante pour qu'on puisse, même la nuit, pousser les feux. Lord Godalming me conseille de dormir un moment car il suffit qu'un de nous veille. Mais comment trouver le sommeil lorsque je pense au terrible danger qui menace ma chair si j'avance à présent vers cet horrible endroit? Mon seul réconfort est de me dire que nous sommes dans les mains de Dieu. Sans cette certitude, le plus simple serait de mourir pour être libéré de ce tourment. Monsieur Maurice et le docteur Seward sont partis avant nous pour leur longue chevauchée. Ils suivront la rive droite en remontant vers l'intérieur du pays, de façon à tenir une bonne étendue de la rivière sous leur regard et à s'épargner d'en côtoyer les sinuosités. Ils ont deux cavaliers qui conduisent leurs chevaux de rechange, quatre en tout pour les premières étapes, afin de ne pas attirer l'attention. Lorsqu'ils renverront ces hommes, et ce sera bientôt, ils s'occuperont eux-mêmes des chevaux. Un moment peut venir où nous devrons nous joindre à eux, et ainsi nous pourrons tous être montés. Une des selles a un arçon de corne, mobile, et pourra aisément être mise en ordre pour Mina, si besoin en est. Terrible aventure que la nôtre. Nous fonçons dans l'obscurité. Le froid qui semble monter de la rivière pour nous transpercer, et toutes ces mystérieuses voix de la nuit autour de nous, c'est peu de dire que nous en sommes profondément impressionnés, tandis que nous dérivons vers des lieux, vers des chemins inconnus, vers un univers de choses épouvantables. Godalming ferme la porte de la chaudière. 31 octobre. Toujours la même poursuite. Le jour est venu, Godalming s'est endormi et je veille. La matinée est glaciale. La chaleur du foyer nous fait du bien, quoique nous ayons de lourdes pelisses. Nous avons dépassé quelques allèges, mais aucune n'avait à bord un coffre de la dimension de celui que nous cherchions. Nous épouvantions les hommes en tournant vers eux nos lampes électriques. Ils tombaient à genoux et se mettaient à prier. 1er novembre, au soir. Rien de neuf aujourd'hui. Nous n'avons rien découvert de ce que nous cherchons. Nous suivons maintenant la Bistritsa. Si notre supposition est fausse, nous avons perdu toutes nos chances. Nous avons examiné tous les esquifs, grands et petits. Ce matin, un équipage nous a pris pour un bateau du gouvernement et nous a traités en conséquence. Cela nous parut un moyen de faciliter les choses. Aussi, à Fundu, où la Bistritsa se jette dans le Serret, nous nous sommes procurés un pavillon roumain que nous arborons à présent. Le tour a réussi pour tous les bateaux que nous avons visités. On nous a témoigné les plus grands égards, sans opposer la moindre objection à nos questions. Quelques Slovaques nous ont parlé d'un grand bateau qui les avait dépassés, à une vitesse plus grande que la normale, avec à bord un équipage double. Cela s'était passé avant Fundu, de telle sorte qu'il n'aurait pu dire si le bateau avait pris la Bistritsa ou continué à remonter le Serret. Aucune nouvelle, à Fundu, d'un bateau de cette espèce. Il doit y avoir passé pendant la nuit. J'ai sommeil. C'est peut-être le froid qui commence à m'affecter, et la nature exige du repos de temps en temps. Godalming insiste pour prendre la première veille. Dieu le bénisse pour sa bonté à l'égard de ma pauvre Mina. « 2 novembre, au matin. Il fait grand jour. Mon bon compagnon n'a pas voulu me réveiller. Ça aurait été un péché, dit-il, tant je dormais paisiblement, oubliant tout mon tourment. J'ai l'impression d'avoir été vilainement égoïste en dormant si longtemps. Mais il a eu raison, car ce matin, je suis un autre homme, capable tout ensemble de veiller sur la machine, de gouverner et de faire le guet. Ma force et mon énergie me sont revenues, je le sens. Je me demande où Mina est à présent. » Où est Van Helsing? Ils ont dû arriver à Veresti mercredi vers midi. Il leur aura fallu quelque temps pour se procurer une voiture et des chevaux. Si donc ils ont été bon train, ils doivent être à présent au col de Borgo. Dieu les conduise, Dieu les aide. Je tremble en pensant à ce qui peut arriver. Que n'est-il possible d'aller plus vite? Mais les moteurs ronflent et donnent tout ce qu'ils peuvent. Comment se poursuit l'avance du docteur Seward et de Monsieur Maurice? De très nombreux ruisseaux, dirait-on, descendent des montagnes vers cette rivière, mais aucun d'eux ne semble très important, aujourd'hui du moins, car ils doivent être redoutables en hiver et après la fonte des neiges. Et les cavaliers ne doivent pas avoir rencontré de grands obstacles. J'espère les retrouver avant d'arriver à Strapsa, car si à ce moment nous n'avons pas rejoint le comte, nous devons en délibérer ensemble. Journal du docteur Seward, 2 novembre. 3 jours sur la route, sans nouvelles, et y en eût-il eu que je n'aurais pas eu le temps d'écrire, car chaque moment est précieux. Nous ne nous sommes arrêtés que pour laisser reposer les chevaux. Mais tous deux, nous supportons admirablement l'épreuve. Nos aventures d'autrefois nous ont été très utiles. Sans elles, aurions-nous été à même d'entreprendre celles-ci? Il nous faut poursuivre. Nous ne nous sentirons heureux que lorsque nous reverrons la vedette. 3 novembre. On nous a dit à Fundu que la vedette a pris la Bistritsa. Si seulement il pouvait faire moins froid. De la neige semble s'annoncer, et si elle tombe dru, elle nous arrêtera. Dans ce cas, nous nous procurerons un traîneau et nous progresserons à la mode russe. Novembre. On nous dit aujourd'hui que la vedette a été retenue par une avarie, survenue tandis qu'elle fonçait pour remonter les rapides. Les bateaux slovaques les remontent aisément, aidés par une corde et en gouvernant savamment. Quelques-uns avaient passé peu de temps auparavant. Godalming est un mécanicien amateur et, bien entendu, c'est lui qui a remis la vedette en état. Ils ont finalement réussi à remonter les rapides avec l'aide des gens du pays et ils ont repris leur poursuite. Je doute que l'accident ait fait du bien au bateau. Les paysans nous ont dit que lorsque la vedette s'est retrouvée en eau calme, elle a eu plusieurs arrêts pendant le temps qu'elle fut en vue. Il nous faut forcer l'allure. Notre aide peut être nécessaire avant qu'il soit longtemps. Journal de Mina Harker, 31 octobre. Nous sommes arrivés à midi à Veresti. Le professeur me dit que ce matin, à l'aube, il a eu peine à m'hypnotiser et que je n'ai pu dire autre chose que « obscurité, calme ». Il est sorti acheter une voiture et des chevaux, avec l'intention d'acquérir si possible des chevaux de renfort, afin de pouvoir les changer en route. Nous avons un peu plus de 70 000 à faire. Le pays est plaisant et fort intéressant. Si seulement la situation était différente, qu'il serait agréable de voir tout cela. Si Jonathan et moi nous faisions la route ensemble, quel plaisir ce serait. Nous arrêter, voir des gens, apprendre quelque chose sur leur façon de vivre, nous remplir l'esprit et la mémoire de toute la couleur et du pittoresque de cette contrée sauvage et splendide, de ce peuple étrange. Mais hélas. Plus tard. Le docteur Van Helsing est de retour. Il a acheté la voiture et les chevaux. Nous allons prendre un repas et nous mettre en route dans une heure. La patronne de l'auberge nous prépare un énorme panier de provisions, de quoi nourrir, dirait-on, une compagnie de soldats. Le professeur l'encourage et me dit à l'oreille que nous serons peut-être une semaine entière sans trouver d'autre nourriture convenable. Lui aussi est allé aux achats et il a fait envoyer ici un magnifique assortiment de couvertures et de fourrures. Aucun risque, nous souffrions du froid. Dans un moment, nous serons partis. Je tremble en pensant à ce qui nous attend. Oui, vraiment, nous sommes dans les mains de Dieu. Lui seul sait ce qui arrivera, et je l'implore, de toute la force de mon âme si accablée, si humiliée, de veiller sur mon mari bien-aimé, quoi qu'il arrive. Que Jonathan sache que je l'ai aimé et honoré, au-delà de tout ce que je puis dire, et que ma pensée suprême, celle qui exprime ma profonde vérité, sera toujours pour lui. Chapitre 27. Journal de Mina Harker. 1er novembre. Nous avons voyagé tout le jour et à bonne allure. Les chevaux semblent comprendre qu'ils sont bien traités et font sans se plaindre toute leur étape dans leur meilleur temps. Les avoir déjà échangés si souvent et retrouver toujours la même bonne volonté nous encourage à penser que l'expédition sera aisée. Le docteur Van Helsing est économe de parole. Il dit au fermier qu'il se hâte vers Bistritz et il les paie bien pour l'échange des chevaux. Nous recevons de la soupe chaude ou du café ou du thé et nous voilà partis. Le pays est charmant, plein d'admirables points de vue et les gens sont courageux, robustes, simples et dotés, semble-t-il, des meilleures qualités. Ils sont très très superstitieux. Dans la première maison où nous fîmes halte, quand la femme qui nous servait vit la balafre sur mon front, elle se signa et tendit deux doigts dans ma direction pour écarter le mauvais œil. Je pense qu'elle prit la peine de mettre un supplément d'ail dans notre nourriture et je ne puis supporter l'ail. J'évite depuis lors d'enlever mon chapeau ou mon voile, grâce à quoi j'échappe à leurs soupçons. Nous avançons rapidement. Comme nous n'avons pas de cocher qui raconterait des histoires aux étapes, nous laissons le scandale derrière nous. Néanmoins, j'imagine que tout le long de notre route, nous inspirerons la peur du mauvais œil. Le professeur semble infatigable. Il n'a pris aucun repos de la journée entière, bien qu'il m'ait fait dormir assez longtemps. Au coucher du soleil, il m'hypnotisa et je lui répondis, paraît-il, comme à l'ordinaire, « Obscurité, clapotis de l'eau, craquement de planches. » C'est donc que notre ennemi est toujours sur l'eau. La pensée de Jonathan me fait trembler, quoique en ce moment je ne redoute rien ni pour lui ni pour moi. J'écris ceci en attendant dans une ferme que l'on ait préparé les chevaux. Le docteur Van Helsing dort enfin. Le pauvre cher homme paraît maintenant très fatigué et vieux et tout gris, mais sa bouche a le pli le plus ferme du conquérant et même dans son sommeil, il respire la décision. Lorsque nous serons partis, je prendrai les rênes pour qu'il puisse se reposer. Je lui dirai que nous avons encore plus d'une journée à voyager et qu'il ne s'agit pas qu'il se trouve épuisé au moment où toute son énergie sera nécessaire. Tout est prêt. Nous allons reprendre la route. De novembre, au matin. J'ai réussi. Nous nous sommes toute la nuit relayés sur le siège. Voici le jour, brillant mais froid. L'air est étrangement lourd. Je dis lourd, faute de trouver un terme plus exact. Je veux dire que tous deux, nous nous sentons oppressés. Il fait très froid et seules nos chaudes fourrures nous donnent du confort. À l'aube, Van Helsing m'a hypnotisé. Je lui répondis, dit-il, obscurité, craquement de planches et grondement d'eau. C'est donc que la rivière change d'aspect à mesure qu'ils en remontent le cours. J'espère que mon bien-aimé ne sera pas en danger, pas plus qu'il ne faudra. Mais nous sommes dans les mains du Seigneur. De novembre, au soir. Avancer sans répit. Le paysage s'élargit. Les grands contreforts des Carpates, qui, à Veresti, nous semblaient si éloignés et si bas sur l'horizon, font mine à présent de se rassembler autour de nous et de nous barrer la route. Nous semblons pleins d'optimisme. Chacun de nous, je crois, fait effort pour réconforter l'autre, et par là même se réconforte lui-même. Le docteur Van Helsing dit que nous atteindrons le col de Borgo au lever du soleil. Il y a peu de chevaux dans cette contrée, et le professeur est d'avis que les derniers que nous avons acquis devront nous accompagner jusqu'au bout, car nous ne pourrons pas nous en procurer d'autres. Il en a pris deux en supplément, si bien que maintenant nous allons à grande guide. Ces chers chevaux, qu'ils sont bons et patients. Aucun trafic ne nous gêne, si bien qu'il m'est très facile de conduire. Nous arriverons au col au petit jour. Nous ne désirons pas que ce soit plus tôt. C'est pourquoi nous avons pu nous mettre à notre aise et nous reposer à tour de rôle. Que nous apportera la journée de demain? Nous approchons de l'endroit où mon pauvre chéri a tant souffert. Dieu nous accorde de trouver la bonne direction, qu'il daigne veiller sur mon mari et sur tous ceux que nous aimons et qui courent un si terrible danger. Pour ce qui est de moi, je ne suis pas digne qu'il me regarde. Hélas, je suis impur à ses yeux et le resterai jusqu'à ce qu'il veuille me permettre de me tenir devant lui, à l'égal de ceux qui n'ont point encouru sa colère. Mémorandum d'Abraham Van Helsing. 4 novembre. Ceci est destiné à mon vieux, à mon fidèle ami John Seward, docteur en médecine de Purfleet, Londres, pour le cas où je ne le reverrai plus. Il trouvera ici une explication. Le matin est là. J'écris près du feu que j'ai entretenu pendant toute la nuit avec l'aide de Madame Mina. Il fait froid, froid, si froid que le lourd ciel gris est plein de neige. Lorsqu'elle tombera, ce sera pour rester tout un hiver sur ce sol qui durcit pour la recevoir. Madame Mina semble en être affectée. Pendant toute la journée d'hier, sa tête lui a semblé si pesante qu'elle était toute différente d'elle-même. Elle dort, elle dort, elle dort. Elle, si active d'ordinaire, hier, elle a passé le jour entier à ne rien faire. Elle a même perdu son bon appétit. Elle n'a rien consigné dans son petit agenda, elle qui utilise si fidèlement chaque moment de répit pour se mettre à écrire. Quelque chose me murmure à l'oreille que tout n'est pas en ordre. Hier soir, cependant, elle a recouvré sa vivacité. Sa longue sieste pendant le jour l'avait délassée, remise. Elle était redevenue aimable et gaie. Comme le soleil se couchait, j'ai tenté de l'hypnotiser, mais hélas, sans résultat. Chaque jour a vu diminuer mon pouvoir, et cette nuit, il m'a totalement fait défaut. Que la volonté de Dieu soit donc faite, quelle qu'elle soit, et quelles qu'en doivent être les conséquences. Que je reprenne maintenant la suite des événements. Madame Mina ayant interrompu sa sténographie, il faut que j'y supplée, si ennuyeuse, si démodée que soit ma méthode, afin que nulle de nos journées ne manque d'être rapportée. Nous arrivâmes au col de Borgo hier matin, au moment où le soleil se levait. Dès que je vis s'annoncer l'aurore, je me préparais à la séance d'hypnotisme. Nous arrêtâmes la voiture et nous descendîmes pour éviter d'être dérangés. Je fis un lit avec des fourrures, Madame Mina s'y étendit, prête comme de coutume pour le sommeil hypnotique. Mais celui-ci vint plus lentement. La réponse fut encore « obscurité, eau tourbillonnante ». Sur quoi elle se réveilla, gaie, rayonnante. Poursuivant notre chemin, nous eûmes rapidement passé le col. Alors, l'ardeur de Madame Mina devint brûlante. Une puissance nouvelle la guidait manifestement, car elle désigna une route et dit « voilà le chemin ». « Comment le reconnaissez-vous ? » ?»« Tout naturellement, » répondit-elle. Et après un silence, elle ajouta, « Mon Jonathan n'y a-t-il point passé ? N'a-t-il pas écrit la relation de son voyage ?» Cela me semblait d'abord étrange, mais je m'avisai bientôt qu'il n'existe qu'une seule route vicinale de cette espèce. Elle n'est que peu usitée, très différente de la voie charretière qui va de la Bukovine à Bistritsa, qui est plus large, empierrée et beaucoup plus suivie. Nous descendîmes ce chemin. Quand nous en rencontrons d'autres, était-ce même des chemins, nous n'en étions pas sûrs car ils sont mal entretenus et un peu de neige y est tombée, et les chevaux s'y retrouvent et eux seuls. Je leur laisse la bride sur le cou et ils avancent patiemment. Nous reconnaissons peu à peu tout ce que Jonathan a consigné dans son admirable journal. Nous continuons d'avancer pendant des heures et des heures, interminablement. Au début, j'ai enjoint à Madame Mina de dormir. Elle a essayé et y est parvenue. Elle dormait tout le temps, si bien qu'à la fin je me sentis venir une inquiétude et je tentais de la réveiller. Mais elle continua de dormir, quelque effort que je fisse. Je tiens à éviter de la brusquer, car je sais qu'elle a beaucoup souffert et qu'un somme, de temps en temps, ne peut que lui faire du bien. J'ai dû m'assoupir également, car soudain je me sentis coupable, comme si j'avais fait je ne sais quoi. Je me retrouvais tout droit sur le siège, rênes en main, et les bons chevaux allant leur train, tout comme auparavant. Madame Mina dormait toujours. Le soleil n'était plus loin de son coucher. Il jetait sur la neige une large vague jaune, et l'ombre que nous faisions était grande, longue, là où la montagne devient escarpée. Car nous ne cessions de monter, de monter. Oh, que tout ceci est donc si sauvage et rocheux, comme si nous étions au bout du monde. C'est à ce moment que je réveillai Madame Mina, cette fois sans grande difficulté. J'essayais alors de la replonger dans le sommeil hypnotique, mais elle ne s'endormit pas et se comporta comme si je n'existais pas. J'essayais encore et encore, et finalement, nous nous trouvâmes, elle et moi, dans l'obscurité. Je m'aperçus que le soleil était couché. Madame Mina se mit à rire. Je me retournai et la regardai. Elle était à présent tout à fait réveillée, et je ne lui avais plus vu une aussi bonne mine depuis cette nuit où nous sommes entrés pour la première fois dans la maison du comte à Purfleet. J'en fus surpris et en ressentis un certain malaise. Mais elle était si épanouie, si affectueuse, si pleine d'attention pour moi que mon inquiétude se dissipa. J'allumai un feu, car nous avons avec nous une provision de bois. Elle prépara un repas tandis que je dételai les chevaux et les attachai à l'abri en leur donnant à manger. Quand je revins vers le feu, notre dîner était prêt. Je voulus la servir, mais elle me dit en souriant qu'elle avait déjà mangé. Elle avait si faim qu'elle n'avait pu m'attendre. Je n'aimais pas cela. Et de grands doutes me vinrent, dont je préférais ne rien dire de peur de l'alarmer. C'est elle qui me servit, et je dînai seule, après quoi nous nous enveloppâmes dans les fourrures pour nous étendre près du feu, et je l'invitai à dormir tandis que je veillerais. Mais voilà que j'oublie que j'ai à veiller, et lorsque brusquement je m'en souviens, je la regarde aussitôt. Je la vois paisiblement étendue, mais éveillée, et fixant sur moi des yeux si brillants. La chose se reproduisit une fois, deux fois, aussi ai-je fait plus d'un somme quand le matin arrive. Je tentai alors de l'hypnotiser, mais hélas, elle eut beau fermer docilement les yeux, elle n'arriva pas à dormir. Le soleil se leva et monta au ciel, et c'est à ce moment que le sommeil tomba sur elle, trop tard, mais si lourdement qu'il n'y eut pas moyen de la réveiller et que je dus la soulever et la placer tout endormie dans la voiture, une fois les chevaux harnachés et prêts pour le départ. Madame Mina dort toujours, et dans son sommeil, elle paraît mieux portante, et elle a le teint plus coloré qu'auparavant. Cela ne me dit rien de bon. J'ai peur. J'ai peur de tout, même de penser. Mais il me faut aller jusqu'au bout. La partie que nous jouons a la vie ou la mort pour enjeu, et peut-être davantage. Nous ne pouvons reculer.